Radio Okapi.
Le journal à la présentation Noé Lalouzi Tukabambi.
Des jeunes gens de Goma sont tués ou disparaissent tout simplement. C'est ce que dénonce le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi. Le CCJ parle d'au moins 7 cas de meurtre des jeunes rien que la semaine dernière, sans parler de plusieurs cas d'arrestation. Les semenciers de la RDC se disent abandonnés à leur triste sort à Kinshasa. Leurs représentants issus des 24 provinces sont dans la capitale pour réclamer du gouvernement congolais leur argent de la campagne agricole 2024-2025. Vous suivrez dans ce journal le SOS de leur porte-parole au président de la République et à la première ministre. Professeur Albert Kabasele, docteur en sciences spatiales de télédétection du climat et l'invité de ce journal, il va parler du dérèglement climatique dont les phénomènes vécus à Kinshasa en ce mois de juin. Une grosse pluie s'est abattue sur la ville, causant mort d'hommes et inondations durant ce mois où l'on est censé être en saison sèche. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, notez tout d'abord que les experts congolais et rwandais ont paraphé hier mercredi 18 juin à Washington un document préparatoire à un accord de paix sous la médiation des États-Unis et en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques Alison Hooker. Les détails avec Martial Papimukeba.
Ce document, paraphé au terme des 3 jours de discussions sous médiation américaine, s'appuie sur la déclaration des principes adoptée le 25 avril dernier entre la RDC et le Rwanda. Il comporte 5 grandes dispositions. Le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale. Le texte prévoit également l'instauration des mécanismes conjoints de coordination sécuritaire, incluant les CONOPS, concept des opérations, un cadre d'échange des renseignements négocié à Luanda en octobre 2024. Selon un communiqué du département d'État américain, ce document sera officiellement signé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda le 27 juin en présence du secrétaire d'État américain. Une signature présidentielle entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en présence des Donald Trump est envisagé pour le mois de juillet. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sur le terrain, dans la partie sous occupation, notamment le Nord Kivu, le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi se dit préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma. Selon son président, au moins 7 cas de meurtre des jeunes ont été documentés rien que pour la semaine dernière et plusieurs cas d'arrestation. Le président du conseil communal de la jeunesse de Karisimbi tire la sonnette d'alarme face à cette insécurité qui, d'après lui, vise particulièrement les jeunes. On l'écoute.
Suite à l'insécurité grandissante ces derniers temps dans la ville de Goma, on est tellement frustrés du fait que la jeunesse est en train d'être victime matin, midi et soir. Au-delà d'être assassinée, il y a des arrestations arbitraires signalées sur les jeunes. Avec ces arrestations-là, qui sont souvent signalées dans la ville de Goma, il y a certains qui seraient déjà disparus, donc on ne sait plus les ressources. C'est comment. Il y a d'autres qui n'ont aucun signe, peut-être ils seraient assassinés. Nous, comme une structure juvénile, lançons encore une fois un cri d'alerte au niveau de la communauté internationale pour qu'elle puisse activer toutes les batteries en marche pour que la sécurité et le rétablissement de l'autorité de l'État dans la ville de Goma soient établis avant que nos jeunes finissent.
Toujours à Goma, dans la journée de mardi, des bandits armés ont réussi à cambrioler différents commerces dans la commune de Karisimbi. Ces vols ont été signalés au quartier Katoy, également à Carmel, dans le quartier Katindo. Les habitants de Goma fustigent la multiplicité des cas de braquage dans cette partie de la ville. Le point avec vous, Élise Kavira.
Pas de répit pour les habitants de Karisimbi. Mardi la journée, des hors-la-loi attaquent simultanément un dépôt des boissons et une maison de transfert des fonds au lieu dénommé chez Maman Gouverneur au quartier Katoy. Des sommes d'argent et autres biens de valeur sont emportés, renseignent les témoins. Pour couvrir l'opération, les assaillants tirent des coups de feu, créant la panique dans le voisinage. Dans la soirée du même mardi, au quartier Katindo, dans la commune de Goma, des individus munis d'armes à feu s'introduisent dans une maison de vente d'articles divers. Toute la recette journalière est emportée. Des clients présents au moment des faits sont à leur tour dépouillés de leur argent et autres objets de valeur. Cette partie de la ville de Goma est devenue la cible des malfrats qui visent régulièrement des activités commerciales, notamment les boutiques, les shops de vente des téléphones mobiles et d'échange de monnaie. Il y a près d'une semaine, un jeune homme, changeur de monnaie, a été abattu sur son lieu de travail et son sac emporté au petit marché à Lanine.
Pendant ce temps, au sud Kivu, dans la commune de Bagira et dans le territoire voisin de Kabaré, les habitants se sont réveillés hier mercredi sous d'intenses crépitements des balles. Un nombre impressionnant des rebelles de l'AFC M23 a investi le camp des policiers Jules Moquet, créant la panique des résidents. Les épouses des policiers ont pris la fuite, la circulation, les activités scolaires sont restées paralysées momentanément. Notez aussi que les activités scolaires n'ont pas pu reprendre le lundi dernier comme prévu dans le territoire de Kabaré après les affrontements de samedi. Samedi et dimanche dans la concession de 5 établissements scolaires aux environs de la paroisse catholique. On écoute à ce sujet Bissimwa Jean Bosco, préfet de l'Institut Iraga.
À Kabaré, ça ne va pas parce que depuis 4 heures du matin, il y a crépitement de balles. Jusqu'à même à ce moment, les activités scolaires ne pouvaient pas reprendre dans des crépitements de balles. Nous sommes à la maison. On n'est pas arrivé même à l'école. C'est depuis 4 heures qu'il y a eu crépitement de balles. Alors aucun parent ne pouvait accepter à son enfant d'aller à l'école. Nous-mêmes enseignants, on ne pouvait pas risquer la vie pour partir à l'école. Ça ne tient pas. Les activités scolaires sont paralysées.
Notez aussi que plusieurs familles sont en déplacement et celles qui sont restées n'ont pas pu libérer leurs enfants pour l'école, indique pour sa part Baizire Chihasha, directeur de l'école primaire Kabaré Centre. Et puis ce geste de générosité en faveur des déplacés de l'Est du pays, il vient de l'intersyndicale du Grand Katanga. C'est le résultat d'une récolte de biens constituée des vivres et non-vivres réalisés depuis le 1er mai dernier. Le président de l'intersyndicale qui se félicite de ce geste invite d'autres bienfaiteurs à faire autant pour soulager la peine de ses compatriotes obligés de quitter leur maison pour aller vivre ailleurs à cause de la guerre. On écoute Kasongo Mabwisha, président de l'intersyndicale du Grand Katanga, joint par Jean Gando.
Nous avons plus ou moins 3000 tonnes. Il y a des habits, il y a des chaussures, il y a la farine, il y a de l'huile, il y a même du sel. Donc la population de Lubumbashi et celle de Kasumbalesa a eu à contribuer à l'appel de l'intersyndicale du Grand Katanga. Et nous tenons aussi à remercier l'autorité provinciale du Haut Katanga et à remercier également le ministre en charge de l'emploi et travail de ce provincial, ainsi que différentes autorités politiques administratives qui ont accepté de nous accompagner. Pendant que nous sommes ici, il y a certaines personnes qui manquent d'habits, qui manquent à manger, qui manquent de chaussures. Il y a des petits-enfants qui n'ont rien à mettre sur leur corps. Et nous qui sommes ici, nous sommes appelés à les assister, à les aider. Nous sommes dit, nous ne pouvons pas être là uniquement pour revendiquer les dossiers des travailleurs. La RDC est agressée. Raison pour laquelle nous sommes dit, soyons solidaires avec la population, avec les réfugiés de l'Est. Que les autorités nous accompagnent pour que ces dons arrivent à destination, c'est-à-dire aux bénéficiaires.
Les discours de haine sont un poison pour la société et un facteur de violence. C'est ce que dénonce le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine hier 18 juin. Dans son message parvenu hier à Radio Okapi, Antonio Guterres avertit que ces discours ont mené à la violence et aux atrocités qui ont fait les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Le thème de la journée cette année met en lumière le lien entre discours de haine et intelligence artificielle. Grâce à Mzati.
Pour le secrétaire général de l'ONU, les discours de haine alimentent souvent la violence et l'intolérance, les minorités ethniques et religieuses étant parmi les cibles les plus fréquentes. Si le pouvoir destructeur de la haine n'est pas nouveau, il est aujourd'hui amplifié par les technologies de communication modernes. Les discours de haine en ligne sont devenus l'un des principaux vecteurs de diffusion des discours conflictuels, constituant une menace croissante pour la paix et la sécurité dans le monde, affirmait-il. Selon lui, si les outils d'intelligence artificielle offrent une multitude d'opportunités potentielles pour améliorer les choses dans les situations de conflits et d'insécurité, des algorithmes biaisés et des plateformes numériques diffusent également des contenus toxiques et créent de nouveaux espaces propices au harcèlement et aux abus. Conscients de cet immense potentiel et de ses risques, les États membres se sont engagés à lutter contre les discours de haine en ligne, déclare-t-il. Antonio Guterres lance ses messages sur le site « Prenons l'engagement d'utiliser l'intelligence artificielle non pas comme un outil de haine, mais comme une force au service du bien. » Fin de citation. De son côté, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, souligne que les discours de haine ne sont jamais inoffensifs Ils déforment, déshumanisent et se propagent de manière plus persuasive à travers l'intelligence artificielle, affirme-t-il.
Comme nous l'avons dit dans le sommaire, les semenciers de la RDC réclament leur argent de la campagne agricole 2024-2025 auprès du gouvernement congolais. Ils ont été sollicités par le gouvernement par l'entremise du Service national des semences, disent-ils, pour fournir des semences au cours de la campagne agricole 2024-2025 lancée en octobre dernier. Les semences ont été livrées dans tous les territoires tels que voulu par le gouvernement. Mais jusqu'à présent, les semenciers ou agri-multiplicateurs de la RDC continuent à attendre d'être payés. Leurs représentants venus des 24 provinces sont à Kinshasa en attente d'une solution à leurs problèmes et se disent abandonnés à leur triste sort. C'est en tout cas ce qu'ils affirment. Ils lancent un SOS au président de la République et à la première ministre. Papi Diafengo Ezekias, leur porte-parole, est avec Grâce Amzati.
Alors que les contrats et les beaucoup de commandes qu'on nous avait donné stipulaient clairement après la livraison d'une semaine, 15 jours, on devrait déjà nous payer. Aujourd'hui, nous sommes bités à des difficultés énormes. Nous avons d'abord perdu toute une saison et nous sommes à Kinshasa, nous passons nuit sous la belle étoile dans une condition horrible. L'un de nos membres, il venait de perdre sa femme ici alors que nous étions venus réclamer notre paiement qui ne devrait pas durer jusqu'à ce mois de juin. Quand on était venu nous voir, ce n'était pas question de procéder la chaîne de dépenses, non. On devrait seulement ramener l'argent sur terre pour qu'on nous paye, pour qu'on livre les semences. Mais nous avons fait la bonne foi, nous avons livré d'abord nos semences. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'être négligés à Kinshasa. Nous sommes les semenciers du Congo. Le chef de l'État lui-même, il avait donné l'ordre. Il a même parlé de ça lors de son discours devant la nation, que les revendent des sols sur les sous-sols. Et nous sommes là, nous sommes donné cet engagement d'appuyer le gouvernement. Mais voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore payés.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du ministre de l'Agriculture n'ont pas encore abouti. Toutefois, une source proche du ministre affirme que ce dernier les a reçus il y a peu et leur dossier est déjà envoyé aux services concernés pour la paie. Parlons encore de l'agriculture, cette fois au Congo central. Plusieurs produits à grande échelle dans les filières importantes telles que le manioc, le maïs, le soja, les arachides et autres seront cultivés sur 3000 hectares dans plusieurs coins de la province d'ici à la saison culturelle prochaine. C'est ce qu'affirme Rudi Diabanza Bitazi, chef de projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture PADCV PTA en RDC. C'était hier à Matadi dans un atelier d'imprégnation du dit projet par les parties prenantes. Ceci rentre dans le cadre de la réduction des incidences de l'insécurité alimentaire et des importations des produits alimentaires en RDC. Rudi Diabanza appelle la population du Congo central à s'approprier ce projet. On l'écoute au micro de Nana. Plus riche Mambo.
Nous avons organisé cet atelier ici pour présenter à la population du Congo central le programme de transformation de l'agriculture. Vous savez que ce programme, c'est une initiative de son excellence, mais c'est le chef de l'État. Il a confié cette mission de la mise en œuvre du programme au Fonds social de la RDC. Dans l'ensemble du PTA, il y a le programme, le projet que nous appelons projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture en RDC. Ce projet qui est le PTAD vise à réduire l'incidence de l'insécurité alimentaire ainsi que les importations de produits alimentaires en RDC. Il s'agit de produits à grande échelle dans les filières prioritaires comme le manioc, le maïs, le soja et d'autres filières secondaires. Donc on a expliqué à la population ces projets, ils ont compris. Après ici, nous irons sur le terrain parce qu'il s'agit de confirmer et d'identifier d'autres sites. Et nous avons l'ambition d'emblaver 3000 hectares pour cette saison agricole à 2025 qui arrive. Donc on va faire le tour de la province, Cataracte, Bas-Fleuve et le Lokaya, où nous allons identifier les sites ciblés et dans ces sites, nous allons lancer la saison agricole qui arrive 2025.
Sachez que ce projet est mis en œuvre par la présidence de la République en collaboration avec le Fonds social de la RDC avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. À l'Équateur, la coordination provinciale du panel des experts de la société civile élève la voix pour réclamer la transparence dans la gestion des fonds alloués pour la prise en charge des victimes du drame survenu le 11 juin dernier sur le lac Tumba au niveau de Bikoro. Christophe Yoka, coordonnateur provincial de cette structure de la société civile, est en séjour à Mbandaka pour des plaidoyers dans ce sens. Pour lui, plusieurs aspects des problèmes relatifs à la gestion de cette catastrophe qui a occasionné la mort d'une cinquantaine de personnes ne semblent pas être pris au sérieux. intérieur. Des détails avec Askin Zigba Tayoro.
Contacté en ligne de Mbandaka, Christophe Yoka a déploré la gestion chaotique de la catastrophe. Selon lui, la quasi-absence d'un dispositif d'urgence au niveau local aggrave la situation humanitaire et sanitaire à Bikoro. Il regrette que les moustiquaires imprégnés sont utilisés à contre-cœur pour repêcher les corps dans le lac Tumba. Christophe Yoka.
Ici au lac, on utilise les moustiquaires imprégnés comme filet. Et quand on pêche, les deux personnes qui sont venues nous parler que, voilà, on est en train de pêcher l'endakala, le petit pondé ici, mais on a récupéré d'autres corps mélangés avec les poissons. C'est un danger permanent. Nous alertons. Si on ne fait pas un effort à éviter tout ça, vraiment, la population de Bikoro est exposée à des maladies.
D'après cet acteur de la société civile, les autorités ont stoppé les opérations de recherche de centaines de personnes portées disparues. Il ajoute que jusqu'à présent, aucune mesure n'est prise en termes d'appui psychologique et socio-économique ou sanitaire en faveur des survivants ou les familles des victimes. Christophe Yoka fait donc appel à une assistance d'urgence pour une meilleure prise en charge des victimes.
L'administrateur du territoire de Bikoro, Justin Poutou, est resté injoignable pour donner sa réaction sur le probable arrêt des opérations de recherche des corps de ce drame de Bikoro.
L'invité.
La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, sous eau en milieu du mois de juin, en pleine saison sèche, ce qui était jadis un phénomène survenant à intervalles de 10 ans, frappe désormais la capitale presque chaque année. Ceci est un signe implacable du dérèglement climatique. Quels sont les facteurs qui sont à la base de ce dérèglement climatique en RDC et quelles sont les précautions à prendre face à cette réalité devant s'aggraver avec le temps? Pour en parler, nous recevons dans ce journal le professeur Albert Kabasele, docteur en sciences spatiales de télédétection du climat. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Professeur Albert Kabasele, bonjour.
Bonjour.
Comment peut-on comprendre que jusque le 14 juin, la pluie continue à tomber alors que les années passées, en cette période, on est en pleine saison sèche?
Oui, les modèles climatiques démontrent que le climat a migré, le climat s'est déplacé. Le mois de juin devient un mois où la saison sèche cohabite avec la saison des pluies. Ceci à cause de deux raisons. Il y a le phénomène d'El Niño, le réchauffement de l'océan Indien qui amène beaucoup d'eau dans l'atmosphère et ça migre vers le Congo ou l'Afrique centrale. Il y a aussi les gaz à effet de serre qui sont une responsabilité mondiale. Donc nous sommes autour de 470 ppm, particules par million dans l'air. Et le réchauffement a dépassé 1,5 degré Celsius sur le plan mondial. Et ceci a fait que sur le plan global, il y a des périodes caniculaires qui mettent beaucoup de chaleur dans les nuages et ça fond, ça donne des pluies. Il y a des forêts aussi. Nous sommes un pays forestier à forte évapotranspiration. Donc voilà les enjeux mondiaux qui font que le climat est en train de changer et nous devons nous habituer. On aura la saison sèche en juillet, août, septembre, octobre. Et voilà, vous devez vous habituer et les eaux vont se concentrer au mois de novembre, décembre et on aura encore beaucoup d'eau en mars, avril, mai. Voilà les mois à surveiller. Janvier et février, on aura des averses. Mais novembre, décembre et mars, avril, mai, on aura des déluges.
Alors, dites-nous, professeur, quelles sont les précautions que la RDC doit adopter en cette période des règlements climatiques?
Il y a une responsabilité globale des G20 qui ont pollué l'atmosphère avec une industrialisation sauvage. Mais il y a une responsabilité locale. Local, ça veut dire quoi? Nous devons avoir des ouvrages de drainage de bonne qualité. On ne doit pas faire des canalisations en pacotille de trop petites dimensions. Quand vous attendez à Kinshasa 2000 mm d'eau par an, ça veut dire 2000 tonnes d'eau par hectare par an, et vous faites une canalisation qui ne reçoit pas assez d'eau. Par exemple, le mois de novembre-décembre et le mois de mars-avril-mai, on n'a pas moins de 200 mm d'eau qui tombe par mois. Ça veut dire 200 tonnes d'eau par hectare qui tomberont sur la ville de Kinshasa. C'est énorme. Alors, pendant ces mois que je demande qu'on puisse surveiller là, l'eau ne peut pas passer par des petites canalisations. Demandons aux Chinois. Chinois, aux sociétés de voiries urbaines, à l'office de route, de faire de gros ouvrages. Nous sommes un état très humide. Donc on ne doit pas faire de canalisation comme si on est au Tchad et au Mali. Ça c'est un. De deux, nous devons nous comporter comme des citoyens. Quand vous êtes à Goma, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, mais la ville est propre. Quel est le contraste avec Kinshasa? Les Gomatraciens ne sont-ils pas des Congolais? Voilà, la mentalité quinoise. Les canalisations ne sont pas un lit de déchets, des bouteilles en plastique. Il y a aussi le déboisement. Comment est-ce qu'on peut enlever tous les arbres qui étaient le long du boulevard du 30 juin? On les remplace par des buildings, par des maisons. Ce n'est pas possible ça. Les arbres là sont où? Certains remplacés par des palmiers du désert. Ce n'est pas possible ça. Aujourd'hui, on doit planter les arbres le long de toutes les avenues et boulevards. Les routes au Congo doivent être bétonnées. Les collecteurs doivent accompagner les routes. Sinon, on va toujours revenir et revenir. Demandons aux Chinois qui construisent de faire des collecteurs. Le long des collines, des bassins versants, on doit avoir des collecteurs, des gros collecteurs, je dis bien. Et des collecteurs partout, on n'aura pas à jeter l'argent sur les routes nationales 1, nationales 2, où ça se coupe à tout moment. Et on doit éviter les goudrons. Nous n'avons pas une ville à goudronner, à bétonner, s'il vous plaît. Il faut casser toutes les constructions anarchiques. La vie humaine coûte plus cher que leurs immeubles. Les généraux qui ont construit ces... Il faut casser. Ainsi, planter les arbres et gérer bien ces déchets. Là, nous allons atténuer, pas stopper, mais atténuer la colère du climat.
Professeur Albert Kabasele, docteur en sciences spatiales et de télédétection du climat, je vous dis merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Alain Goy. Le tout sous la coordination et la supervision de Pele Kipela Mondo.